des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril. Question du
public. Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio. Jean-Nicolas Gagné, moi-même, en compagnie de Stéphane Cadorette, lui-même. Steph, on va commencer avec des questions du public.
Oh, il l'a retrouvé! Il y en a qui vont être contents, là, j'aime ça.
The sifflet is there. OK.
Yes.
Deux questions d'Alexis Poulain, Harry. Ou Harry. Je sais pas comment il prononce son nom de famille. On le sait.
Ben, Harry, là, ça serait genre chevelu, là.
Ouais,
H-A-I-R-Y. Là, moi, je dirais
là,
plus
c'est H-E-R-R-Y. Ouais,
ah okay. Oui, on va y aller avec Harry.
Poulain, Harry. Quelle équipe s'est le plus améliorée en cette première journée des agents libres? Et lui, il considère que les Texans, les Giants et les Falcons sont gagnants. Et il nous dit aussi, est-ce que vous pouvez nous dire si les différents échanges des derniers jours ont eu un impact sur l'ordre du draft?
La deuxième question d'abord, là, non, il n'y a pas eu d'impact parce qu'il n'y a pas eu de premier choix échangé. Je parlais de Brian Burns à l'instant. C'est un choix de deuxième ronde, un choix de cinq. Il y a eu quelques échanges comme ça. Mais pour ceux qui surveillent surtout la première ronde, là, il n'y a pas de premier choix impliqué. Pour l'instant, au moment où on se parle, parce qu'il faut le préciser, ça va vite. On peut aussi bien, Jean-Nic, fermer boutique tantôt, puis il va avoir eu cinq moves. Là, on le sait pas. Là. C'est ça, la période des agents libres. Hein. Faut vivre avec.
Est-ce que, comme Alexis, tu considères que les Texans, ça semble être les clear winners là, de la première semaine. Là. Est-ce que tu considères aussi que les Texans sont vraiment ont une bonne séance de signature?
Oui, mais non en même temps. T'sais, ils ont perdu des éléments importants, je trouve, en défense, les Texans. Là. On parle de Jonathan Greenard. Je sais qu'il n'est pas autant connu que Will Anderson, là, mais c'est un gars qui a vraiment, vraiment bien performé là, l'année passée. Blake Cashman, au milieu de leur défense, un excellent secondaire, une machine à plaquer. Ils l'ont perdu. Ils ont perdu un plaqueur, bon, pas de grande qualité, mais quand même un partant, Malik Collins. Par contre, c'est sûr que moi, je trouve qu'ils gagnent en allant chercher Joe Mixon par rapport à Devin Singletary. Daniel Hunter, c'est une fichue belle addition qui fait oublier un peu là, des pertes en défense. Denico Autry aussi, c'est une belle addition ça comme plaqueur pour remplacer Collins. Fait que je les mets dans le camp des gagnants là, c'est sûr, mais
ils ont un peu payé cher Dalton Schultz là, je suis pas sûr que Dalton Schultz là vous valait un contrat de 3 ans 36 millions là.
Ouais, ben écoute, c'est pas mal.
Ils ont peut-être assuré le jeune corps arrière là, mais
oui, puis tu sais tu regardes là dans les chiffres là, il est pas mal dans le top 8-10 de la ligue au niveau des tight ends, c'est la valeur que tu dois payer dans le marché. Fait que moi oui, ils sont gagnants, mais peut-être pas aussi clairement ben, que je les vois gagnants partout.
C'est qui ton équipe gagnante alors?
Ben je sais que des fois, on fait des moves, puis qu'après ça, c'est pas parce que t'as dépensé beaucoup que t'es dans les gagnants. Mais il reste que j'aime quand même ce que les Eagles ont fait. Saquon Barkley, je pense que ça va donner du punch à l'attaque, autant au sol que par les airs. Après ça, tu sais, t'as été chercher Bryce Huff. Bryce Huff, ça, c'était... Moi, j'avais dit dans le journal que c'était un des joueurs que je trouvais les plus intrigants sur le marché des agents libres. C'est un ailier défensif. Avec les Jets, l'année passée, il y a eu une bonne dizaine de sacks, puis il a joué 40% des snaps. Tu regardes année après année, c'est à peu près ça qu'il jouait, 30%, 40%, 50%. Puis il produisait quand même bien. Moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui pourrait éclore, surtout à Philadelphie, où on aime beaucoup appliquer la pression. Fait que pour moi, ça, c'est une signature qui est assez sous-estimée. Puis, il ramène C.J. Gardner-Johnson, le maraudeur, ouais. La grande gueule, le leader défensif. Ça, j'aime ça. C'est un joueur que j'aime beaucoup. On l'a pas vu beaucoup à Détroit l'an passé. Il a été blessé. Mais il revient à maison. Fait que j'aime un peu ce qu'ils ont fait. Là. Je comprends qu'ils ont perdu quelques vétérans. Là, mais pour moi, ils sont parmi les gagnants.
Est-ce que Kelce va revenir? Hein? Il a, ça a l'air d'y tenter, on verra bien.
Jason, tu parles là, ouais, ou Travis? Ouais, non, non, Jason, c'est, je pense que c'est fini. Là.
Ouais,
il a annoncé sa retraite, mais...
Oui, mais il a encore hier, il disait que ça le démange.
Là, je sais, mais là, je peux pas croire que 6 mois plus tard, personne ne fait ça sauf Tom Brady, non?
Ouais, c'est ça, ou, ou Brett Favre.
Oui, exact.
Quel, Dominique, qui nous dit quel moment de Derrick Henry vous a le plus marqué lors de son passage chez les Titans du Tennessee?
Ouais, ben, je sais pas si Dominique, tu voulais dire un jeu en particulier ou quoi, mais moi, je voyais plus l'ensemble de la saison 2020. Quand Derrick Henry a eu 2027 verges au sol, c'est mémorable. Tu sais, tu t'embarques dans un club de 8 running backs dans l'histoire qui ont 2000 verges ou plus dans une saison. C'est un exploit vraiment remarquable, surtout dans une ère où tout est axé sur le jeu aérien. C'est toutes les running backs qui sont dans ce club-là m'ont impressionné là, parce que c'est pas normal d'avoir 2000 verges au sol. Mais quand tu regardes le contexte du football offensif d'aujourd'hui, pour moi, l'exploit est encore plus impressionnant. Il y avait eu 378 portées cette année-là de Rick Henry. Il y avait tout le temps le ballon. Tout le monde dans le stade savait qu'il allait l'avoir. Puis il passait quand même la ligne de mêlée. Il y avait des gros gains. Pour moi, c'est une des plus belles saisons à vie d'un porteur de ballon.
Notre ami Rusovski qui nous pose la question, que pensez-vous des ajouts de Russell Wilson et Patrick Queen chez les Steelers?
Ouais, ben là, on a parlé un petit peu tantôt. Là. Moi, mon point, c'est que pour les Steelers, c'est risque zéro ou à peu près. Russell Wilson, là, franchement, pour moi, c'est une amélioration par rapport à Kenny Pickett. Puis, tu sais... C'est sûr que j'ai vu des analyses qui disaient « Ouais, mais là, tu viens de briser les ailes, de briser la confiance de Kenny Pickett. » Est-ce qu'il y avait vraiment de la confiance, Kenny Pickett?
Ben moi, j'irais plus loin que ça. Là. Je pense que les Steelers devraient magasiner Kenny Pickett. Je pense que c'est le temps de...
Écoute,
la seule fois, il va avoir un peu de valeur.
Un peu. Si tu as eu un 6e round pour Mac Jones, tu pourras pas bien avoir plus que ça, je pense, pour Pickett.
Ben, tu le passes, là. C'est
peut-être
tout,
un peu, là. Mais bon, effectivement, si tu veux t'en débarrasser, mais par contre, oublie pas que si Russell Wilson se blesse, t'es dans le trouble, tu sais. Ben, t'aurais Mason Rudolph, là. Mais pour moi, les Steelers ont clairement fait un bon move qui coûte pas cher, qui leur permet d'investir ailleurs. Est-ce que je suis en train de dire que Russell Wilson va les transformer en équipe de 14-3? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ça leur coûtait rien pour avoir une amélioration claire par rapport à ce qu'il y avait.
Puis, il était dans un milieu dysfonctionnel depuis 3 ans, puis il a quand même réussi 26 passes de toucher l'an passé.
Moi, excellent point. Avec Mike Tomlin, là, il n'y aura pas de folie. Là. Si ça marche pas, ça marche pas, on passe à un autre appel. Très bon point par rapport à l'environnement.
Steve, qu'est-ce qu'il se passe avec Jerry Jones et les Cowboys? Je suis inquiet pour mes chums fans des Boys. Est-ce le temps que quelqu'un prenne la relève des opérations football à Dallas?
C'était sûr qu'on allait avoir cette question-là parce que les Cowboys, c'est sûr que non seulement ils perdent des plumes, mais il se passe rien. Là, c'est une des rares équipes qui... Je pense que c'est la seule équipe qui a signé aucun joueur de l'externe là, jusqu'à maintenant, si je me trompe pas. Ils ont perdu Tony Pollard, ils ont perdu leur centre Tyler Biadasz, ils ont perdu leur plaqueur Doran Armstrong, ils ont perdu Dante Fowler, bon, qui jouait pas tant, là, mais quand même. Ça fait des pertes ici et là.
Non, tout ce qu'ils ont signé, c'est leur long snapper, là, ça en dit long.
Ouais, puis j'ai l'impression que ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on se garde des munitions côté salarial pour pouvoir renégocier Dak Prescott. Mais écoute, tu vas t'amener dans une situation où ton porteur de ballon partant, si la saison commence demain, puis je comprends que c'est loin, là, il peut arriver bien des affaires. Mais là, tu te ramasserais avec un gars comme 12 Vaughn comme porteur de ballon. Là. 12 Vaughn mesure 3 pieds 8. Là.
Ça, c'est de la pétitophobie. Là. J'espère que tu sais qu'on risque d'être cancellé là, avec cette attaque au physique.
Ouais.
Mais il nous écoute pas, là.
Qui nous écoute pas?
Ben, 12.
12, oui, 12. Mais toutes nos
excuses.
Peut-être
que la parole des personnes de petite taille, eux, nous écoutent, on les salue.
Oui, oui, puis c'était juste une blague, là, de toute façon. Mais 12 Vaughn, bon... Oh! Hey, Jean-Nic!
Hein?
Les effets spéciaux aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
Oh oui, On n'y est pas, là. C'est une nouvelle saison.
Je suis sous le choc. Mais c'est ça. Fait que les Cowboys, bref, il se passe pas grand-chose, c'est sûr. On s'attendait là, qu'il n'y ait pas des moves extraordinaires parce que, à moins que je me trompe, là, ils ont pas nécessairement énormément de lousse sous le cap salarial. Mais il reste que pour un club qui est supposé être un aspirant ou en tout cas proche, c'est vraiment, vraiment, vraiment tranquille. Là, la fameuse question, est-ce qu'on est dû pour changer? Jerry Jones, c'est le propriétaire.
Bonne chance pour le tasser.
T'as beau dire, là, mais il se tassera pas de lui-même.
Non, c'est sûr. Pierre, qui nous pose la question, est-ce que Kirk Cousins vaut ce qu'il a obtenu? Est-ce que ce sera top 10 dans les carrières en 2024? Tantôt, t'étais top 12. T'es-tu prêt à aller dans le top 10? S'il joue comme l'an passé.
Oui, t'sais, fort possiblement. Là, la question Kirk Cousins, c'est pas statistiquement est-ce qu'il est dans le top 10-12, c'est quand les lumières sont allumées, quand ça chauffe dans la cuisine, quand t'as un match que tu dois absolument gagner, est-ce qu'il va te le gagner? Puis il avait été en chercher une coupe là, dans les deux dernières années avec les Vikings, il faut lui donner. Mais en série, c'est sûr que ça n'a pas été sa plus belle carte de visite, Kirk Cousins. Mais pour l'instant, dans une situation comme celle des Falcons où tu avais un problème énorme au poste de corps, tu sais, Desmond Ridder, il jouait pas si mal. Il jouait carrément de façon atroce là, l'année passée. Moi, je me souviens d'avoir vu des matchs où il se passait absolument rien. Puis le club jouait pas si mal autour de lui. Là, je pense que Kirk Cousins peut aller chercher facilement 3-4 victoires de plus. Les Falcons peuvent devenir un club à surveiller dès l'an prochain.
Jonathan Chabot, est-ce que les Raiders amorceront la saison avec Minshew et O'Connell ou ils iront chercher un autre QB? En tout cas, on sait que ce ne sera pas Jimmy Garoppolo, il a été libéré.
Non, puis j'ai le feeling que les Raiders demeurent les candidats logiques pour aller chercher un Justin Fields, par exemple. T'sais, au moment où on se parle, en tout cas, il n'a pas bougé. Mais Justin Fields au moins amènerait un upside. Je comprends là, que il a pas nécessairement tout cassé à Chicago, mais il a montré des beaux flashs avec les Raiders. Il se retrouverait avec un Davante Adams. Vraiment,
c'est drôle. Je regarde Antonio Pierce là, puis je suis pas sûr que c'est une carrière que. En tout cas.
Mais je pense pas qu'ils peuvent aller dans la saison avec Minshew et O'Connell. Il manque quelque chose. À moins qu'on s'avance au repêchage, ça peut être une piste aussi. Mais le tandem Minshew-O'Connell, pour moi, ça suffit pas.
Non, moi non plus, mais on parlait de 5 corps arrière qui pourraient être repêchés en première ronde. Mm-hmm. Mettons qu'ils réussissent à avoir un des 3 premiers.
Les 3 premiers, là.
Mettons qu'il parle avec JJ McCarthy, là. Ben, ouais, mais. Ouais,
les 3 premiers, ça va sortir top 3, top 4, là.
Ouais.
Fait que c'est ça le problème. Il faut que tu t'avances, puis là, à quel point t'es prêt à payer.
Jean-François, qui nous pose la question avec les nombreux et relativement bons contrats signés par les running backs, est-ce que la crise que nous avons vue l'an dernier les concernant est résorbée?
Résorbé pour l'instant, mais à long terme, je le sais pas, parce que je pense pas que le plafond va augmenter à chaque année de 30 millions. Puis, comme je le disais tantôt, le draft semble faible, il peut toujours y avoir des surprises. Il va en avoir 2-3 running backs qu'on n'a pas vu venir au repêchage puis qui vont nous surprendre. Mais après ma barre, là, c'est pas une grosse année, il y aura pas de choix de première ronde, c'est à peu près sûr. Les autres années, là, il va y avoir des bons prospects de qualité. Le plafond n'augmentera pas de 30 millions. Fait que je pense que l'année qu'on a vue sur le marché actuel pour les porteurs de ballon, c'est pas nécessairement une tendance.
Alexis, en combinant les jeunes armes offensives au poste de receveur de passe et avec l'arrivée de Josh Jacobs avec les Packers, croyez-vous que Jordan Love a tous les outils pour exploser l'an prochain, et percer en série? Sinon, il manque quoi?
Ben, ce qui manquerait pour moi, là, puis d'ailleurs, Alexis.
Mais c'est un si gros upgrade que ça, là, Josh Jacobs et Aaron Jones, je sais pas. Là. Moi, je le vois pas. Là.
Je comprends qu'il
est plus jeune un peu. Mais.
Je pense pas non plus. L'affaire, c'est qu'on retient de Josh Jacobs sa grosse saison en 2022. Il a gagné le championnat des porteurs de la Ligue avec 1600 verges. Là, ça, on peut pas y enlever. Mais en dehors de ça, il a pas été toujours égal. L'année passée, il a connu une saison vraiment très difficile. Moi non plus, je suis ton école de pensée. Là, je suis du genre, oui, Josh Jacobs, je pense qu'il peut rendre encore de fiers services. Je suis pas prêt à lancer la serviette dans son cas. Mais est-ce qu'il est tant meilleur qu'Aaron Jones? On peut se tromper, là, mais moi, je pense que non. Là où il manque un élément quand même aux Packers, c'est un receveur là, d'expérience. Tu vois, on disait tantôt, il n'y avait pas tant de receveurs sur le marché. Puis je vois qu'à l'instant, les Titans ont signé Calvin Ridley. Calvin Ridley, ça aurait pu être pas si mal, ça, pour les Packers. Un receveur qui a quand même quelques bonnes années dans la NFL. Je pense que c'est tout ce qui manque. Parce que c'est pas qu'ils sont pas bons, les receveurs des Packers, mais ils sont tous inexpérimentés. Là, tu vas me dire, ouais, mais après un an, deux ans, là, ils vont le devenir à un moment donné. Mais j'aurais quand même aimé ça qu'il y ait un vétéran dans la pièce.
Sifflette.
Tu l'as cherché?
Pierre, ouais, mais c'est parce que je regardais ce que tu me disais, là. Puis je suis curieux, moi aussi, de voir un. T'sais, c'est vrai que pour les wide receivers, il en reste pas bien bien. C'est ça que je regardais, mais il va falloir qu'ils se lèvent vite de bonne heure aussi. S'il y a quelqu'un qui est libéré pour essayer d'être le premier à négocier avec les Packers. OK, Pierre, Mixon pour un 7e tour. Il me faut une explication. Mmh. Fin de contrat, donc les Texans vont devoir sortir le chéquier.
Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Puis l'autre chose, c'est que les Bengals allaient le libérer de toute façon.
Mais s'il allait le libérer, c'est qu'il n'y avait pas personne. Il y avait, je peux pas croire qu'ils n'ont pas levé le téléphone avant pour savoir s'il y avait des offres.
Ils ne s'entendaient pas avec lui. Probablement qu'il avait commencé à parler à des équipes. Mais ce qu'on voyait de plus en plus, c'est « Ah, ils ont signé Zach Moss. Ils s'apprêtent à libérer Joe Mixon. » Puis là, whoop, tout à coup, une offre. Écoute, c'est vraiment rien. Je pense que c'est plus un cas où les Texans se sont dit « Plutôt qu'ils se ramassent sur le marché, puis que, je sais pas, moi, Dallas ou Baltimore négocie avec lui, ou peu importe. On va aller le chercher, on va le sécuriser, on va s'assurer de donner un 7e tour. C'est pas plus compliqué que ça.
OK, on finit avec Gilles. Guillaume, pardon, qui dit, croyez-vous que... Guillaume Villeneuve, désolé.
Ah ben oui, c'est presque pareil.
J'ai fait une association sans le vouloir. Croyez-vous que l'acquisition de Barkley par les Eagles est comparable à celle de McCaffrey à San Francisco?
Ah, c'est une bonne question, je trouve, parce que effectivement, il y en a qui questionnaient à l'époque, là, hey, les Niners ont donné 4 choix pour aller chercher McCaffrey. Ils n'ont pas tant besoin d'un grand porteur de ballon. Kyle Shanahan fait fonctionner tout le monde. T'sais, c'est un peu ce que je te disais avec les Eagles tantôt. C'est pas leur approche qu'on a vu par les années passées, mais peut-être que c'est le gars qui peut enlever la pression à Jalen Hurts, faire passer l'attaque à un autre niveau. Je trouve la question intéressante. À première vue, j'ai le goût de dire non. Je pense pas que Barkley est aussi dominant que McCaffrey. Mais je considère quand même que la question est légitime.
Puis on s'entend que c'est pas l'ingrédient qui manquait pour que la soupe soit une étoile Michelin. C'est pas ce qui manque au restaurant pour avoir une étoile Michelin. Là.
Non. Mais quand même, tu sais, c'est un porteur de ballon.
Ça pour se rendre en série.
Effectivement, mais tu sais, tu regardes ça, McCaffrey, tout ce qu'il a apporté aux Niners là. On n'aurait pas cru ça, je pense, quand ils sont allés le chercher, parce que Kyle Shanahan faisait fonctionner n'importe quel kidam qu'il trouvait dans la rue. Il formait, viens-t'en dans mon attaque, ça va bien aller. Mais il faut lui donner, là. McCaffrey a vraiment, vraiment transformé cette attaque-là. Je pense pas que Barkley va avoir le même impact, là, mais à surveiller quand même, c'est le fun comme question.
C'est la fin de la période de questions, mon cher. Merci à tous ceux qui ont participé. Vous savez que vous pouvez nous joindre. Même si on est dans l'entre-saison, n'hésitez pas à nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez nous écrire et aussi, vous pouvez être membre de notre groupe Facebook pendant l'entre-saison. On va essayer de l'animer un peu. C'est sûr, c'est plus tranquille, mais allez sur Nos précieux conseils de fantasy football. C'est sur Facebook. Donc, Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi nous écrire ça peut être des questions, mais ça peut être des commentaires ou toutes sortes de choses, des suggestions. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante.
La zone payante à commercialquebecormedia.com. Même dans saison morte, il y en a qui nous écrivent, on répond. On prend tous vos messages.
Merci Steph, on fait une pause et après la pause, c'est le bar. Bougez pas.